Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonjour, je suis Léa Chaumoncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, des Civic Tech. Les Civic Tech représentent l'ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d'améliorer le système politique. 57,36%, c'est le taux d'abstention constaté lors du dernier tour des élections législatives de juin 2017 en France. Nous le savons déjà depuis plusieurs années, l'abstention électorale est fortement influencée par un sentiment de non-représentation politique. Pour répondre à cette difficulté et redonner la parole aux citoyens, la participation directe de ces derniers à l'élaboration des décisions publiques peut constituer une réponse efficace. Des mécanismes de démocratie directe existent et sont prévus par nos textes, mais ils paraissent pourtant insuffisants. À l'heure où la contestation s'intensifie à travers le mouvement des Gilets jaunes, une plus grande réflexion autour de la participation citoyenne semble s'imposer. C'est effectivement l'objet de l'une des revendications des Gilets jaunes, qui réclament la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Cette proposition a suscité beaucoup de réactions et certaines associations, à l'instar de Parlement et Citoyens, avec le soutien d'autres acteurs tels que République Tech, ont décidé de s'en saisir. En effet, ces derniers ont lancé, le 20 décembre dernier, une consultation sur le référendum d'initiative citoyenne afin de créer un espace neutre de dialogue entre parlementaires et citoyens autour de cette proposition. Et c'est précisément pour favoriser la participation citoyenne et améliorer le système politique que les Civic Tech ont vu le jour. D'aucuns considèrent qu'elles sont fondamentales au bon fonctionnement de notre démocratie, mais qu'en est-il du côté de nos représentants politiques? Sont-ils tous au fait de ces technologies? Les soutiennent-ils? Quelle place sont-ils prêts à accorder aux nouvelles technologies afin de renforcer leurs liens avec les citoyens? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec le professeur de droit public, Gilles Guglielmi, qui réagira sur les 5 propositions de République Tech. République Tech est une campagne de sensibilisation des pouvoirs publics visant à insuffler un nouvel élan démocratique, notamment grâce aux outils numériques. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler des Civic Tech ?
Pas plus que ça.
Alors à vous de m'expliquer ce que sont les Civic Tech.
Non mais c'est pas mon sujet alors, vous interpellez votre député.
Oui, j'en ai entendu parler, mais écoutez, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste en toute honnêteté.
Je sais traduire. Donc c'est les technologies par rapport à la citoyenneté et par rapport à la participation, je pense.
Non.
Non.
Pas du tout.
Alors non, je n'ai pas entendu parler des Civic Tech.
Cédric Villani, député LREM de l'Essonne, semble être le plus au courant.
J'ai entendu parler d'un certain nombre de Civic Tech et il y a quelques temps, il y avait une journée spéciale organisée aussi avec le concours de l'Assemblée nationale et un certain nombre d'entreprises qui travaillaient sur la démocratie participative, sur l'information des citoyens, sur la façon de mieux assurer le contact entre le politique et la société.
Par ailleurs, il était un peu inquiétant de constater que très peu d'entre eux connaissent le taux d'abstention au second tour des dernières législatives, élections leur ayant pourtant permis d'accéder à leur siège de député.
Oh, il devait être près de 50%, 52%, 53%, 54%, 55%.
Oui, près de 55% en France.
Je crois que c'était pas énorme, ça devait être 40%, quelque chose comme ça.
Oh, de l'ordre de... entre 40 et 50%, sûr.
Plus, bah écoutez, plus de 50%. Écoutez, bon.
Je crois que c'était 40%, non? Un peu plus, 50%? 57%, c'est terrible.
Oui, il était très important. On était près de la moitié des Français qui ne sont pas allés voter.
Bien qu'ils ne connaissent pas ce taux d'abstention, tous les députés interrogés sont d'accord pour dire que l'abstention est un véritable fléau et qu'il existe une volonté croissante de la part des citoyens de participer à l'élaboration des décisions publiques, tel que le souligne le député LREM de la Marne, Éric Gérardin.
Il y a une volonté manifeste... que les gens, tout simplement, veulent de plus en plus participer aux décisions de la vie publique et qu'à partir de là, évidemment, ça, on sent que c'est une demande. Oui. Après, je ne suis pas certain que ça renforce pour autant la volonté des gens d'aller mettre un bulletin dans une urne.
C'est également le constat du député socialiste de la Marne, Guillaume Garot, pour qui l'émergence des Civic Tech est liée à cette volonté de prendre davantage de place dans le débat public.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a... un foisonnement d'initiatives démocratiques dans notre pays pour permettre une plus grande participation des citoyens à la vie publique. Et les Civic Tech sont une des expressions de ce foisonnement-là. Alors, c'est vraiment passionnant parce que il y a beaucoup d'initiatives portées en particulier par les plus jeunes de nos citoyens et qui mettent l'outil numérique au service de la démocratie.
Le député LREM du Val-d'Oise, Guillaume Bulletet, n'hésite pas de son côté à parler d'une véritable crise de la participation démocratique en France.
Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'on est dans une crise et de la représentation démocratique et de la participation aux décisions, et que ça, en revanche, c'est ce qui a été, c'est ce qu'on peut voir aussi avec le fameux Gilets jaunes, c'est-à-dire une envie quasi compulsive à un moment donné de dire les choses différemment.
Enfin, tous semblent globalement assez favorables au développement des nouvelles technologies au profit de la participation citoyenne. C'est notamment l'avis de Guillaume Garot qui salue ce type d'initiative. Écoutons-le.
Tout au contraire, je pense, moi je vois beaucoup de start-up ou d'initiatives aujourd'hui qui sont franchement passionnantes parce que avec les nouvelles technologies, avec le numérique en particulier, on peut renouveler les formes essentielles, fondamentales de la démocratie. Alors démocratie, ça reste de l'échange, ça reste du débat. Et si les Civic Tech nous amènent vers ça, bah tant mieux.
Même chose du côté de Guillaume Vultet, pour qui il est nécessaire de renforcer les liens entre les décideurs et les citoyens.
Bah, je pense qu'il y en a déjà qui sont à l'œuvre. Et je pense que c'est en effet plutôt une bonne idée. Tout ce qui permet de créer un lien raisonné entre une information et une décision et la participation des citoyens, oui, ça me paraît très bien, en effet.
Ce constat est également partagé par Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, pour qui les nouvelles technologies permettent de rapprocher les citoyens de leurs élus.
Typiquement, moi je pense qu'il faudrait une assemblée constituante dont on puisse discuter de tout ça. Et parmi toutes les choses dont il faut discuter, il y a notamment, on est aujourd'hui en 2018-2019, c'est évident que les réseaux sociaux permettent de rapprocher le citoyen de ses élus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut imaginer des votes en ligne, on peut imaginer une transparence en ligne sur tout ce qui se passe. Ça, indiscutablement, on peut aujourd'hui le développer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est passionnant. Hein, les chaînes d'info, la télévision, l'image fait que beaucoup de débats qui étaient confinés à des hémicycles aujourd'hui sont de plus en plus tournés vers l'extérieur. Donc tout ce qui participe à ça, avec juste la petite réserve que je ne suis pas non plus pour que ce soit la machine qui prenne le pas sur l'homme, mais tout ce qui participe réellement à rapprocher le citoyen, une fois de plus, des lieux de pouvoir et des décisions qui sont prises dans son nom, bref, à lui donner sa souveraineté, fût-ce par des moyens numériques, tout ça est bon à prendre.
Certains considèrent néanmoins que le contact direct entre les élus et les citoyens reste fondamental et que les nouvelles technologies ne sont pas en mesure de le remplacer. C'est le constat du député Liberté et Territoires du Val-d'Oise, François Popini, pour qui rien ne remplacera le dialogue direct entre élus et citoyens.
Écoutez, moi j'ai toujours été plutôt partisan d'être au contact direct avec les gens. La nouvelle technologie c'est très bien, mais c'est un outil. Rien ne remplacera le dialogue direct entre les élus, les populations, les habitants, les citoyens.
Voilà. Cédric Villani considère pour sa part que les nouvelles technologies doivent nécessairement être prises en compte par les décideurs publics, mais que seul l'humain peut sauver les gens.
Je pense que c'est une évolution importante qui à elle seule ne résoudra pas tout, c'est pas la technologie qui sauve les gens, c'est toujours l'humain, mais qui doit être un des ingrédients importants dans la politique du XXIe siècle.
Pour Christophe Di Pompeo, député LREM du Nord, les nouvelles technologies ne semblent pas être la solution idéale pour renforcer le lien entre les citoyens et les élus.
Je suis pas sûr. On en parle souvent, mais je pense que tout le monde n'a pas accès aux nouvelles technologies, et généralement, ceux qui votent n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution.
Et pour Martine Léguy-Ballois, députée LRM de Vendée, la participation des citoyens aux consultations publiques dépend essentiellement de leur bonne volonté.
Alors, c'est un bon outil à une seule condition, parce que nous, on use effectivement de tout ce genre d'outils, mais à une seule condition, qu'il n'y ait pas de téléchargement, parce que les gens ne téléchargent pas, que ce soit quelque chose qui soit très très facilement accessible, très compréhensible, et il faut que les gens soient décidés, parce que vous savez, ça fait très longtemps que nous on fonctionne par questionnaire, en passant par les chambres de commerce, en passant partout, et en réalité ben, on n'a pas beaucoup de réponses. Les citoyens veulent tous participer jusqu'au moment où il faut qu'ils prennent du temps pour le faire. Alors et même certains organismes ou entreprises, c'est pareil. Alors c'est quelque chose d'absolument parfait, mais si les citoyens veulent participer, qu'ils participent.
Enfin, pour le député MoDem du Rhône, Cyril Isaac Sibyl, rien ne remplacera la poignée de main.
Même si je suis du Nouveau Monde, je pense que la rencontre humaine et la poignée de main, enfin rien ne remplacera la poignée de main.
Ce constat est également celui de Guillaume Garot, pour qui il faut aller au-delà du clavier.
La démocratie, c'est aussi du débat. C'est aussi de la délibération collective et qu'on a besoin d'échanges. Donc moi, ce que je retiens surtout des Civic Tech, c'est que c'est le chemin vers la démocratie. C'est une façon de renouveler la démocratie, mais ça n'est qu'un outil, un instrument. Il faut toujours veiller à ce qu'on soit dans le collectif, donc qu'on aille au-delà du clavier pour pouvoir partager.
Convaincu de l'intérêt des Civic Tech, République Tech a élaboré 5 propositions démocratiques qui sont soumises aux députés afin de les interpeller et de connaître leur position. Ce sont ces 5 propositions que nous avons présentées au professeur de droit public, Gilles Guglielmi, afin qu'il nous fasse part de son analyse juridique. Bonjour professeur, Gilles Guglielmi, vous êtes professeur de droit public et avez une connaissance précise des nouvelles technologies. Vous avez diffusé à ce titre la première lettre juridique sur Internet et avez fondé le premier master de droit public des nouvelles technologies. L'initiative République Tech a élaboré 5 propositions afin de jeter les bases de la démocratie du futur, notamment grâce aux nouvelles technologies. Étant donné votre expertise, j'aimerais avoir votre avis sur ces 5 propositions. La première est la suivante. Consulter plus fréquemment les citoyens, notamment via des plateformes numériques et collaboratives intégrées dans le processus de fabrication de la loi. Qu'en pensez-vous ?
Je peux penser que c'est une bonne idée parce que je crois l'avoir préconisé moi-même il y a un certain temps, lorsque est apparue la prise de conscience de l'Assemblée nationale, surtout d'ailleurs, du fait qu'il fallait trouver un moyen d'utiliser positivement les nouvelles technologies, la facilité qu'amène l'Internet, et que leur légitimité s'en trouverait renforcée plutôt que diminuée. Donc, évidemment, on ne peut qu'être favorable à une telle proposition, à condition d'en préciser les limites. La première limite, c'est qu'évidemment, lorsque l'on procède ainsi et qu'on consulte largement la population à partir de plateformes qui sont ouvertes, on ne trie pas les contributions et que par ailleurs, ou inversement, on ne laisse accéder à ces propositions que ceux qui ont accès aux médias. Aux médias donc de la plateforme, aux médias éventuellement de l'ordinateur, lorsque c'est le cas. Alors ceci a un effet mécanique d'exclusion, pour la deuxième considération, des publics qui ne sont pas habitués à l'utilisation de ces médias. Et puis il y a aussi des phénomènes qui tiennent à l'âge, qui tiennent à la culture, qui font que ceux qui sont capables de répondre et qui ont envie de répondre ne représentent pas l'ensemble de la population et que ça introduit évidemment une surreprésentation de ceux qui vont s'exprimer. Donc il y a cet inconvénient. Par contre, l'avantage, c'est qu'on ne trie pas les contributions, c'est-à-dire que d'une part, elles sont libres et il peut y avoir toutes les formes d'expression, les pires comme les meilleurs, et toutes les idées, les pires comme les meilleurs, ce qui est le meilleur moyen de faire jaillir de bonnes choses. Et quand on a utilisé une large consultation de ce type pour la loi sur la République numérique, on a constaté à quel point c'était tout à fait justifié, dans la mesure où cette loi, en réalité, en faisant ça, a permis d'identifier les questions et de régler toute une série de petits problèmes qui traînaient depuis longtemps, de façon synthétique, efficace, et de telle façon d'ailleurs qu'on n'en parle plus aujourd'hui, puisque les problèmes sont réglés.
La deuxième proposition vise à numériser l'article 11 de la Constitution via une plateforme publique. Est-ce que cela vous semble être une bonne idée ?
Ça signifierait donc que l'on a recours à des moyens numériques et des plateformes publiques, j'espère publiques, je fais cette hypothèse de base, pour mettre en œuvre la partie de l'article 11 de la Constitution qui concerne la participation directe des citoyens et la proposition de questions par la voie du référendum. Dans cette hypothèse-là, il faut peut-être se poser des questions toutes simples, qui sont des questions arithmétiques. Pour faire une proposition au titre de l'article 11, les citoyens doivent représenter 10% du corps électoral et, si je ne m'abuse, 20% du corps parlementaire, enfin être soutenus par 20% des parlementaires. 10% du corps électoral, aux dernières nouvelles, ça doit faire 4 750 000 personnes. Et le délai pour recueillir les signatures et de 9 mois. Un bref calcul, de tête bien sûr, permet de se rendre compte que ça revient à exiger, entre guillemets, qu'il y ait des signatures supposées constantes, en nombre constant, si on fait une moyenne, c'est forcément en constante, pendant 9 mois, par le biais d'une plateforme publique. Et ces signatures sont donc de 188 par minute. Ce qui veut dire qu'il est peu probable que, même avec une plateforme numérique, et même sur une période de 9 mois, on arrive à avoir une telle ampleur de réaction. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'outil électronique soit inadapté, ça ne veut pas dire non plus que l'idée de participation citoyenne à un référendum, enfin pour déclencher un référendum, soit mauvaise, mais ça veut dire probablement que... Et ça ne veut pas dire non plus que le délai, d'ailleurs, soit trop court, parce que 9 mois, c'est un délai parfaitement raisonnable. On pourrait mettre un an, mais ça ne changerait pas grand-chose à l'ordre de grandeur. En réalité, je crois que ça traduit le fait que 10% du corps électoral, c'est trop. Et que donc, il faut peut-être réviser cette disposition si on veut qu'un jour, il y ait réellement une proposition.
Est-ce qu'il faut donc maintenir un seuil? Et si oui, lequel?
Ah oui, il faut un seuil. Ça, de toute façon, par principe, il en faut un pour éviter que n'importe quel groupuscule puisse déclencher de telles choses. Et puis, parce qu'ensuite, il faut traiter la question. C'est-à-dire que plus on a de propositions référendaires, plus derrière, il faut en assurer le traitement. Et comme le traitement est obligatoire, qu'il est formalisé par la loi organique, ça mobiliserait les efforts du Parlement de façon disproportionnée s'il y en avait trop. Donc, il faut un seuil. Alors, quel seuil exact, ça, c'est une question d'appréciation personnelle, mais on peut penser que fixer 1%, 2%, peut-être 3% du corps électoral, ce serait possible, mais il faut rester dans ces ordres de grandeur-là si on veut espérer un jour concrétiser cette démocratie que l'on dit semi-directe.
La troisième proposition vise à instaurer un droit d'interpellation à l'échelon local. Les collectivités territoriales seraient alors tenues d'inscrire à l'ordre du jour toute délibération, propre à leurs compétences, émanant d'au moins 10% de leurs électeurs inscrits. Qu'en pensez-vous ?
En l'occurrence, ça ne me paraît pas très utile, ni très plausible. Pas très utile parce que si vous voulez interpeller les collectivités territoriales, vous avez des moyens beaucoup plus simples, qui consistent tout simplement à avoir une représentation dans des conseils municipaux qui sont même très largement ouverts. Les élections municipales permettent à des minorités d'être représentées. Le nombre de conseillers municipaux dans les communes d'une taille moyenne est assez élevé. Il y a toujours un conseiller municipal pour porter une interpellation. La deuxième raison, c'est que 10% du corps électoral pour les communes, c'est l'inverse de la question nationale. C'est très vite atteint. Si vous faites une pétition dans une petite commune, vous avez assez facilement 10% du corps électoral. En conséquence de quoi, là, on pourrait, non pas empêcher le conseil municipal de travailler, mais détourner son activité principale en inscrivant toute une série de dispositions d'interpellation à l'ordre du jour. Évidemment, au bout d'un certain temps, on se retrouve, comme on l'était sous la Troisième République, à répondre à des questions en permanence et à ne pas faire le travail de législation ou de débat informé sur les conditions techniques du débat qu'on devrait faire.
La quatrième proposition a pour objectif de créer une fondation dédiée aux innovations démocratiques afin d'assurer leur financement et leur croissance. Est-ce pour vous une bonne idée ?
Bon, ça, c'est une très bonne idée, mais comme vous le savez, les fondations relèvent de l'initiative privée. Alors bien sûr, elles ont un régime favorable qui leur est conféré par la puissance publique. On a un appareil juridique qui permet d'accompagner le mouvement, mais l'initiative reste privée. Donc si on veut qu'il y ait des fondations en la matière, ce qui est tout à fait légitime, eh bien il faut mettre des partenaires autour de la table et puis bien évidemment leur donner à ces fondations leur donner une visibilité qui soit suffisante.
Enfin, République Tech propose de soutenir financièrement des actions pédagogiques au niveau universitaire pour encourager la recherche et le développement dans le domaine de la citoyenneté. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'un universitaire ne peut qu'être favorable à ce qui encourage le développement universitaire et de l'activité d'enseignement de recherche, mais aussi d'ouverture citoyenne, parce que l'université en France est à 95% publique et qu'elle a évidemment, pour des raisons historiques et traditionnelles, un rôle dans le débat public, qui est le rôle de former tous les participants à ce débat d'une façon égale, d'une façon neutre, en leur offrant néanmoins toutes les options critiques à disposition. Et je crois que ça rentrerait parfaitement dans la mission, bien sûr, des universités. Mais il faut pour que ces actions se concrétisent, il faut une source de financement externe. Il y a des fondations universitaires, ce qui ramène à la question précédente. Donc on peut tout à fait imaginer une fondation d'université qui aurait ce but-là et qui serait établie en partenariat avec certains acteurs au terme d'un tour de table de financement raisonnable.
Merci professeur. Nous retenons de votre analyse que les nouvelles technologies peuvent être utiles à l'amélioration du système politique et que les innovations démocratiques doivent être encouragées. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.republictech.fr.